Nous allons prier. Seigneur Dieu, tu nous vois du haut de ton ciel. D'ailleurs, tu vois les milliards d'êtres humains du haut de ton ciel. Et tu connais exactement les pensées des milliards d'êtres humains. Et puis tu vois ton Église, celle que tu as adoptée, que tu aimes, que tu as rachetée. Viens bénir ton Église. Viens nous bénir. Viens nous consoler. Viens nous guérir. Merci pour l'œuvre de réconciliation parfaite réalisée par le Christ Sauveur. Continue de faire ton œuvre en chacun de nous ce matin par ta parole. Père, nous te prions au nom de Jésus, parce que c'est lui qui nous a demandé de nous adresser au Père en son nom. Merci. Amen. On va reprendre donc les deux versets, mais seulement deux versets dans cette histoire de l'arrestation de Pierre et de Jean. Acte 4, 18 à 21 qui va apparaître maintenant, normalement. Et nous lirons dans la Bible du Semeur. Acte 4, 18 et suivant. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Jusqu'ici la lecture. C'était le texte principal donné par Portes Ouvertes concernant ce culte d'aujourd'hui. Mais pour comprendre ce texte, il vous faut lire tout le contexte. Et tout le contexte a été tout à l'heure lu. L'arrestation de Pierre et de Jean devant un nombre important de personnes. Il y avait les pressions politiques, les pressions religieuses, un mélange de pressions de toutes sortes sur Pierre et Jean, pour deux raisons. Ils osaient dire « c'est vous qui avez crucifié Jésus, mais Jésus est ressuscité, il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Nous l'avons chanté tout à l'heure. Dire que Jésus est vivant et que ça tombe dans l'oreille du Sadducéen, ça ne passe pas. Parce qu'il nie la résurrection en général. Voilà que ces deux témoins courageux témoignent publiquement de ce qu'est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle les choses vont se gâter. Ils mettent en péril la paix sociale, la tranquillité religieuse et politique à Jérusalem. Cet épisode, et bien d'autres dans le livre des Actes, montrent toutes sortes d'oppositions, je dis toutes sortes d'oppositions, pour empêcher le nom de Jésus d'être proclamé et cru. Et Pierre et Jean, ils savent bien ce que c'est que d'aller à contre-courant. Au départ, ils étaient pêcheurs, ils utilisaient des barques, et quelquefois sur le lac de Galilée, il y avait des contre-courants. Et voilà que sur le plan spirituel, ils comprennent que vraiment, ils sont à contre-courant et qu'ils sont en train d'être persécutés. Ça, c'était pour introduire deux idées que je voudrais développer devant vous, maintenant. Première idée, c'est que nous sommes tous des persécutés. Nous prions certes pour l'Église gravement persécutée, mais nous sommes tous des persécutés. La forme verbale du mot « persécution » signifie littéralement « poursuivre ». À partir du moment où nous avons pris position pour Jésus, que notre identité est en lui. Nous sommes poursuivis. Et nous sommes, plus ou moins, selon les circonstances, persécutés. Parce que, qu'est-ce qui s'est-il passé ? En tout cas, moi, je sais ce qui s'est passé au cours de l'année 1966. J'ai résolument voulu changer de camp. Les chrétiens véritables, disciples de Jésus-Christ, sont des hommes et des femmes qui ont changé de camp. Ils sont dans l'opposition. Et ils sont, plus ou moins, persécutés. Il y a un trio de puissances maléfiques qui va nous poursuivre. Avant, nous n'intéressions pas beaucoup ce trio de puissances maléfiques. Mais depuis que nous avons changé de camp, que Jésus est devenu notre admirable sauveur, nous sommes poursuivis, persécutés. Pourquoi ? Tout simplement que ce trio maléfique, qui s'appelle l'homme naturel révolté contre Dieu, il est toujours en nous-mêmes, même si nous sommes des chrétiens, qui s'appelle le monde est Jésus, et le monde est les chrétiens, qu'il s'appelle le diable, il est vraiment l'ennemi du Christ, surtout qu'il a été battu, écrasé par sa mort et sa résurrection. Ils veulent tout faire pour nous poursuivre. L'avez-vous remarqué ? Nous sommes tous des persécutés. Ah, vous ne revenez pas. Hein ? Et pourtant, c'est très important de bien le comprendre. Si nous ne comprenons pas, je vais développer cette thèse-là tout à l'heure, que nous sommes vraiment, nous aussi, assis sur un banc confortable, potentiellement persécutable, nous ne pouvons pas prier correctement pour les gravement persécutés. Bon, je l'exprime à ma manière. C'est très important. Le Nouveau Testament appelle persécution un très large éventail d'actions mauvaises qui ne se limite pas uniquement à la souffrance extrême, au martyr, à la privation de liberté, à être violé dans certains pays, qui a toute une gamme préalable de types différents et variables de persécution. Et maintenant va apparaître un texte que j'aime beaucoup dans la version dite second. C'est le texte de la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3 et au verset 12. Un texte qui confirme ma thèse, hein, de toute façon. Voilà. Il confirme ma thèse. Tous ceux qui veulent vivement, qui veulent pieusement vivre en communion avec Jésus-Christ seront persécutés. Dans la version dite du semeur, c'est dit différemment, mais la pensée est exactement la même. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, dans leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Ce qui fait que depuis l'été 1966, je suis devenu un persécuté. Dans le cas de Pierre et Jean, c'était une persécution des forces politiques. Mais quand on lit bien ce qui se passe, surtout au travers du site Portes Ouvertes, nous voyons qu'il y a mille manières d'être persécuté. Il y a la persécution de la famille qui est atroce aussi, etc., etc. Cet épisode et bien d'autres épisodes montrent donc toutes sortes d'oppositions qui empêcheraient, qui voudraient empêcher les disciples de dire « Vous avez crucifié Jésus, mais il est ressuscité. » Oh là 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 là, là on touche. Je vais prendre un tout petit exemple pour bien que nous comprenions cette gamme diverse de persécutions, si j'ose dire cela. Uniquement dans l'évangile de Jean, et uniquement par rapport à la persécution ou l'opposition qu'a subie notre Seigneur Jésus. Il y a un livre formidable composé par un auteur anglo-saxon qui est en français intitulé « À l'ombre de la croix ». Il essaye de relater toute la haine qui s'est cristallisée contre Jésus et il a mis en exergue 6 formes différentes de persécution, d'opposition que Jésus a subi, rien que dans l'évangile de Jean seulement, hein, pas dans les autres épîtres ou autres évangiles. 6 points. Jésus a été rejeté par sa famille. Vous croyez que ça lui a fait du bien d'être rejeté par sa famille ? Oh, on pense que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Oh, ça ne devait pas lui faire beaucoup de mal. Non. Dans son humanité, dans sa sensibilité, il a souffert d'être rejeté par sa famille. Deuxième chose, il a été menacé d'arrestation. Hein, si on vous menace à coup de téléphone, on va vous arrêter, la police vient. Troisième chose, il a été menacé de lapidation. Mourir par lapidation. Quatrième point, il a eu tout simplement sa réputation salie d'une manière abominable. Vous voyez, c'est des gammes diverses d'opposition, de persécution. Il a été calomnié. Et enfin, comble du comble, il a été arrêté, il a été tué, il a été crucifié. Attention, Jésus n'était pas un martyr, hein ? Faut faire la différence. Jésus a voulu aller à la croix. Il a voulu subir toutes ces choses. Il a voulu faire volontairement la volonté du Père. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tandis que le martyr, il se passerait bien de cela. Jésus est mort en sauveur. Il a souffert en sauveur. Il a été persécuté, si j'ose dire, et l'ultime point de sa mission, c'était le salut. J'en arrive maintenant à ma deuxième thèse. Pour dire ceci, nous sommes tous membres de la grande église terrestre, pour l'instant persécutée. Et cela pourtant ne doit pas nous faire oublier que ceux qui sont, on va dire, gravement persécutés, une image peut peut-être nous faire comprendre, les gravement brûlés, hein, nous poussent à nous rappeler d'eux dans la prière et dans l'aide et la prière. Un autre texte va apparaître. Il se situe, celui-ci, dans l'Épître aux Hébreux. On va le décortiquer. Il n'y a qu'un verset. Hébreux 13, verset 3. Vous arrivez bien à comprendre ? Ça marche ? Ça colle ? Nous saluons d'ailleurs nos frères et sœurs d'origine roumaine, un pays qui a été énormément persécuté dans le passé. J'ai lu ce livre du pasteur Wim Brandt, vous connaissez ? Qui relate la terrible persécution qu'il a vécue en prison sous la pression des autorités politiques. Et j'ai entendu des conférences également de pasteur Wim Brandt à Paris et ailleurs. Fermons la parenthèse. Et cette deuxième thèse, elle est très importante pour nous chrétiens, plus ou moins persécutés, mais persécutés quand même. Pour l'instant, gentiment assis au chaud, il fait bon ici, sur un banc. Voilà ce que nous dit ce texte. Hébreux 13, 3. Ayez le souci de tous ceux qui sont en prison, comme si vous étiez vous-même enchaîné avec eux. Il ne faut pas oublier que les prisonniers du temps de la rédaction du Nouveau Testament, ceux qui souffraient pour leur foi, eh bien, quand ils étaient en prison, ils étaient tous enchaînés à leurs gardiens. Alors, s'ils voulaient s'enfuir, le gardien était là. C'était terrible, hein ? Pour ça que j'aime beaucoup cette précision. De tous ceux qui sont maltraités puisque vous partagez leurs conditions terrestres. Nous partageons la condition terrestre de tous les chrétiens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient algériens, et qu'ils soient de tous ces pays d'Asie, où il y en a beaucoup de persécutés, ou d'Afrique également, dans le sens que nous aussi, nous connaissons plus ou moins, dans certaines circonstances, la persécution. C'est très important de le comprendre, parce que ça va être le moteur qui va nous aider d'intercéder efficacement. Et nous devons comprendre, quand nous avons le jour merveilleux, il faut dire le jour merveilleux, pris position pour Jésus-Christ, que nous avons commencé à vivre ce que c'était que d'être poursuivi par la chair, par le monde et par Satan, quand nous avons compris cette réalité, que nous n'étions pas sur un terrain de jeu, hein, que nous sommes dans un champ de bataille spirituel. Quand nous comprenons cela, que nous aussi nous sommes dans un champ de bataille spirituel, jusqu'au bout, hein, ça n'enlève pas notre joie, ça. Eh bien, nous sommes beaucoup plus aptes à intercéder, à prier, à penser à nos frères et à nos sœurs. Tant que nous sommes des petits chrétiens gentils, sur un terrain de jeu, en train de jouer au ballon, heureux d'être sauvés, d'aller au ciel, alléluia, nous ne comprenons pas tout à fait ce qu'est derrière le fait qu'il y a une bataille spirituelle. Moi, j'aime bien les chrétiens gentils, mais je fraternise aussi avec ceux qui montrent qu'ils ont changé de camp et qu'ils vivent leur opposition. Et alors, il n'y a pas grand-chose à ajouter quand on lit ce texte de Hébreux 13, 3. Puisque nous comprenons ce qu'est être persécuté, nous pouvons vraiment nous mettre à la place de ceux qui sont gravement persécutés. Ce sont des martyrs, et déjà dans le livre des Actes, nous voyons les premiers martyrs pour le Christ. Le Nouveau Testament, de l'évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, en fait s'adresse à une église persécutée. Lisez bien. Et en danger. C'est pour ça que la persécution est réellement un phénomène universel. Retenez ce mot. Universel. Ça nous concerne tous. Alors, quand nous entendons des nouvelles, quand nous regardons le site tout simplement de Portes Ouvertes, quand nous recevons ces petites journaux qu'Albert nous propose, hein, nous avons une compassion qui nous est donnée par le Saint-Esprit et nous permet d'aider, on peut envoyer l'argent aussi, et prier pour ces chrétiens persécutés. Le témoignage que nous avons entendu tout à l'heure m'a frappé. Il avait tout d'abord une prière assez égocentrique. Je ne sais plus si c'était un... je ne sais plus de quelle nationalité. Voilà. Il priait d'abord pour être sorti de cette affaire. Et Dieu lui a parlé. Tu es là, c'est pour que tu rendes témoignage à tous tes compagnons de prison que, d'abord, ils ont crucifié le Christ, comme l'avait fait le peuple juif, mais qu'il est ressuscité. Et quand il a compris ça, eh bien, le Saint-Esprit a fait son œuvre. Ce qui fait que quand nous prions, nous aussi, pour les chrétiens persécutés, c'est peut-être par rapport au fait que nous voulons qu'ils soient libérés de cette persécution, bien sûr. Qu'un mari pasteur retrouve sa femme ou ses enfants dont il a été privé. Mais aussi pour prier dans le but qu'il ait un témoignage tellement rayonnant du Christ que d'autres vont s'ajouter au royaume. C'est ça qu'il faut bien que nous comprenions. Je vais arrêter. Je vais conclure. C'est peut-être une de mes prédications les plus courtes que j'ai apportées jusqu'ici. Ce qui compte, c'est le Christ. C'est la gloire du Christ. Ce qui compte, c'est de nous reposer la question, est-ce que j'ai vraiment bien changé de camp? C'est un chrétien d'origine coréenne, la Corée du Nord. Il avait fui ce pays. Et il avait dit la chose suivante. La meilleure et la seule façon de savoir si vous êtes vivant, vivant en Christ, quoi. Si vous êtes persécuté. Si vous êtes persécuté, c'est que vraiment vous êtes vivant en Christ. Parce qu'il y a l'opposition qui est là. Nous n'aimons pas la persécution. Tout le monde parmi nous a un équilibre psychologique normal. Nous n'aimons pas. Mais cette persécution sous toutes ses formes différentes va arriver. Rien que dans notre pays de France, il y a une espèce de religion qui va bientôt venir nous persécuter. Cette espèce de laïcisme qui est devenu une religion. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit de distribuer des petits Nouveaux Testaments. Est-ce que ce n'est pas la persécution? Il y a des forces ténébreuses, là, qui vont venir s'abattre. Préparons-nous. Essayons de les discerner et de lutter. Ma petite conclusion, je l'ai trouvée dans les trésors du Nouveau Testament, rédigé par un pasteur bien connu, évangélique Charles Rochedieu, en rapport avec le petit commentaire de Hébreux 13:3 qui a été lu tout à l'heure. Il dit ceci, « Que les souffrances et la peine des autres servent au moins à tuer notre égoïsme en nous apprenant à porter leur fardeau, à penser à nos frères et sœurs persécutés partout avec sympathie. » C'était une manière pour lui de faire un petit commentaire sur ce verset d'Hébreux 13, verset 3. Je ne peux pas mieux dire. Merci de votre écoute. Glorifions Jésus plus que jamais. Prenons position pour lui. Toujours, toujours, toujours. Mais nous sommes dans son camp. Et ça veut dire beaucoup de choses qui changent dans notre vie. Il est digne d'être suivi. Il est digne d'être aimé. Quelques mots de prière pour terminer. Seigneur Dieu, tu as envoyé pour nous un Sauveur merveilleux. Tu avais calculé ton coût de toute éternité. Tu es tellement plein d'amour et de grâce, tu t'es dit, je ne peux pas laisser l'humanité perdue comme ça. Et dès le premier livre de la Bible, nous découvrons la mise en place de ce sauvetage extraordinaire en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'adorons. Nous savons que ce sauvetage sera complet, merveilleux, lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem. Ça nous est raconté. Et nous serons en communion les uns avec les autres, y compris avec ceux qui ont vécu le martyre dans leur chair. Et nous contemplerons l'agneau de gloire en gloire. Ça sera merveilleux. Nous sommes sous la terre, que tu nous donnes réellement cette intercession, cette aide pour nos frères et sœurs, pour l'Église persécutée, sachant que nous en faisons partie aussi. Amen.